Bonjour, bienvenue à ce chapitre sur les éléments pratiques d'intervention diététique dans le diabète de type 2 en Afrique. Je suis Hélène Delisle et c'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour ce chapitre. Nous avons jusqu'ici abordé les notions théoriques générales d'alimentation santé, alimentation optimale, ainsi que les grandes lignes de la gestion nutritionnelle du diabète, les principes, les recommandations et l'évidence scientifique derrière ces recommandations. Nous en sommes maintenant au point de traduire ces principes dans de bonnes pratiques alimentaires qui s'adaptent au contexte, qui s'adaptent aussi aux personnes vivant avec le diabète en Afrique. Voici les objectifs spécifiques. Nous espérons qu'à la fin de ce chapitre, les apprenants seront mieux en mesure d'utiliser les outils qui seront proposés dans l'évaluation et la planification alimentaire avec les patients. De traduire les grandes lignes de la gestion nutritionnelle du diabète en un plan d'alimentation réaliste. D'aider les patients à résoudre leurs problèmes pratiques d'alimentation quotidienne dans différentes circonstances. Et de s'inspirer d'expériences africaines qui seront décrites pour améliorer son intervention en matière de diététique du diabète. Voici quels sont les modules couverts dans ce chapitre. En premier lieu, le régime de base, et vous comprendrez pourquoi c'est entre guillemets, et son adaptation à différentes conditions et situations de consommation. Un deuxième module portera sur quelques outils pratiques pour l'évaluation et la planification nutritionnelle. En troisième lieu, un module de calcul avec l'indice glycémique, le calcul des glucides et les systèmes d'échange alimentaire pour ceux qui peuvent s'en servir. Et finalement, des expériences en matière de nutrition dans le diabète au Mali. Ce module sera animé par Stéphane Besançon de Santé Diabète au Mali. Alors, allons-y avec ce premier module. Et nous commençons avec la définition de régime alimentaire. En fait, un régime a plusieurs acceptions et de façon générale, ce devrait être la façon de s'alimenter, de se nourrir. On parle aussi de modèle ou de schéma alimentaire. Pensez au régime végétarien ou végétalien ou omnivore qui contient des denrées animales et végétales. Mais alors, dans une acception plus étroite, régime correspond à diète avec une panoplie d'interdictions et de privations. Mais en fait, étymologiquement, régime veut dire une alimentation propre à conserver ou rétablir la santé. Pensons par exemple au régime méditerranéen dont il a été question, au régime bas en hydrates de carbone, au régime DASH et autres. Mais il n'y a pas qu'une seule façon de bien se nourrir. Et plusieurs régimes sont favorables à la santé ou même à une bonne gestion du diabète, comme on l'a vu dans le chapitre sur les grandes lignes de la gestion nutritionnelle du diabète. En effet, les régimes ou modèles alimentaires qui se sont révélés favorables pour la santé sont également indiqués dans le diabète. C'est pourquoi on dit qu'en fait, l'alimentation dans le diabète, au fond, c'est une alimentation santé, une alimentation optimale. On parle souvent de nutrition médicale et thérapeutique ou de thérapie nutritionnelle dans le diabète, mais en réalité, on réfère au plan d'alimentation adapté qui fait partie, bien sûr, de la thérapie. Mais je le répète, il s'agit, vous le verrez, d'une alimentation santé à plus ou moins de détails près. C'est une alimentation santé, d'ailleurs, qui conviendrait à toute personne indépendamment du diabète. Sauf, bien sûr, à apporter certaines adaptations en fonction notamment de la médication. Dans le régime alimentaire du diabète, il n'y a pas d'aliments interdits. Certains aliments doivent être pris en quantité limitée et peu fréquemment. Mais il n'y a pas en tant que tel d'aliments interdits. Il n'y a pas non plus d'aliments spéciaux qui seraient indiqués. Dans le diabète, on peut fort bien utiliser les aliments courants. Ce qu'il y a, c'est que l'alimentation santé, qui doit être combinée à l'exercice, bénéficiera encore davantage et sera encore plus impérieuse pour les personnes vivant avec le diabète ou qui sont à haut risque. Voici quelques caractéristiques de l'alimentation optimale qui convient donc dans la gestion ou la prévention du diabète. Toujours, cette alimentation santé est riche en fruits et légumes, en légumineuses, noix et graines, en produits laitiers non gras, si les produits laitiers font partie des habitudes alimentaires locales, en poissons, en céréales à grains entiers, ainsi qu'en huiles végétales riches en acides gras monoinsaturés. Nous avons déjà parlé de l'huile d'olive, mais il y a aussi l'huile de canola et l'huile d'arachide. Cette alimentation optimale est également modérée en viande rouge et surtout en viande transformée. En matières grasses, surtout d'origine animale, lesquelles sont riches en acides gras saturés et contribuent à augmenter le mauvais cholestérol. Modérée également en sucre raffiné et glucides à indice glycémique élevé, comme nous allons le voir plus loin. En sel et en alcool. Bien sûr, les personnes qui ne consomment pas d'alcool ne seraient pas encouragées à commencer. Voici en outre quelques critères simples que j'utilise en ma pratique pour vérifier la qualité nutritionnelle de l'alimentation des adultes. Ces critères sont applicables en clinique. D'abord, à vue d'œil, on peut déterminer si le poids est apparemment normal ou pas. Bien sûr, ce serait à vérifier avec l'indice de masse corporelle et ceci correspondrait à une alimentation adéquate en termes d'énergie, c'est-à-dire que le bilan énergétique mesure bien les apports en fonction des dépenses. Mais également, le poids peut être un indice non seulement de la qualité, de la quantité de l'alimentation, mais aussi de sa qualité. Un autre critère, 3 repas par jour ou à tout le moins 2 selon la culture. Mais attention, les personnes qui vivent avec le diabète devraient en prendre au moins 3. L'alimentation diversifiée qui est au cœur de l'alimentation santé, c'est-à-dire qu'elle comprend au moins 4 des 5 principaux groupes alimentaires tous les jours. Ces groupes sont les céréales et autres féculents, les fruits, les légumes, les denrées protéiques, les produits laitiers ou autres sources de calcium, là où les produits laitiers ne sont pas de consommation courante. L'alimentation santé est caractérisée également par peu d'aliments superflus et ultra transformés. On pense alors aux boissons gazeuses, aux sucreries, aux grignotines, aux fast-food. Il y a également peu d'aliments en grande friture, puis dans beaucoup d'huile qui absorbent donc beaucoup de gras. Cette alimentation contient beaucoup de céréales à grains entiers, de fruits et de légumes, et peu d'alcool. Voilà pour ces critères simples de la qualité nutritionnelle. Maintenant, dans la gestion alimentaire du diabète de type 2, il y a 3 dimensions qui se recoupent un peu avec ce qu'on a vu tout à l'heure. D'abord, dimension choix des aliments pour la qualité, dimension taille à limiter des portions pour la quantité, et ensuite les rythmes alimentaires, les repas et leur structure. Donc, voyons avec le choix des aliments. Il faut, on vient de voir, des aliments variés des 5 principaux groupes alimentaires, la diversité étant à la base de la qualité alimentaire. Ensuite, le choix d'aliments à faible indice glycémique et peu transformés. Remarquez, les aliments à indice glycémique élevé sont souvent aussi des aliments transformés. Deuxième aspect quantitatif, alors on limitera les portions, surtout dans le cas des céréales et des féculents, ainsi que pour les matières grasses, car ce sont là les principales sources d'énergie, ainsi que de glucides, bien sûr, dans le cas des céréales et féculents. S'agissant des rythmes alimentaires, l'alimentation régulière est encore plus impérieuse dans le cas du diabète qu'autrement. Il faut au moins 3 repas et les collations vont dépendre de la médication, des habitudes alimentaires et du mode de vie. Qu'en est-il de la consommation d'alcool? Eh bien, si le patient n'en consomme pas, on va l'encourager à poursuivre, car l'alcool favorise le gain de poids, il peut élever la tension artérielle, il devient vite toxique à l'organisme. Si le patient en consomme, on lui recommandera de prendre l'alcool avec la nourriture, mais de ne jamais dépasser 1 à 2 consommations tout au plus à la fois. Une consommation correspond à ces quantités respectives de vin, de bière ou d'alcool distillé. Évidemment, plus la teneur alcoolique est élevée, plus la portion est petite pour une consommation. Qu'en est-il des substituts du sucre non énergétique, c'est-à-dire ces édulcorants qui ne sont pas du sucre? Eh bien, on l'a déjà dit, mais je le répète, ils ne sont pas nécessaires et ils n'aident pas les personnes à s'habituer à manger moins sucré. Certes, ils peuvent aider les patients qui ont la dent sucrée, mais ces substituts devraient être consommés modérément. Il y a l'aspartame, le sucralose et l'acésulfame K qui sont à préférer aux autres édulcorants de synthèse. Et un nouvel édulcorant plus récent, le stevia, est lui d'origine naturelle. Remarquez toutefois que les alcools de sucre, xylitol, maltitol et autres, donnent de l'énergie mais contiennent moins de glucides que le sucre. Alors, nous allons voir ici quelques adaptations diététiques pour différentes conditions physiologiques ou cliniques. Nous allons d'abord voir les adaptations à faire en fonction de la médication, en fonction d'autres problèmes cliniques. Nous allons ensuite parler de l'alimentation dans le diabète gestationnel pour enfin nous pencher brièvement sur la prévention du diabète, encore que l'alimentation est la même ou presque que dans le cas de la gestion du diabète lui-même. Alors, adaptation diététique à la médication pour le diabète. D'abord, le patient sous hypoglycémie en haut doit veiller à avoir une alimentation aussi régulière que possible d'un jour à l'autre. Alors que le patient sous insuline, lui, pourra éventuellement adapter le type et la quantité d'insuline à son alimentation, mais bien sûr, tout dépend des types d'insuline qui sont disponibles localement. À savoir, et sans doute que vous êtes déjà au courant de ceci, l'insuline et les médicaments insulinosécrétaires, les insulinagogues, favorisent le gain de poids. Alors, il sera plus difficile encore à la personne qui vit avec le diabète de contrôler son poids si elle prend de l'insuline ou de ses médicaments. Il y a également risque d'hypoglycémie, surtout avec l'insuline et les insulinagogues. À cet effet, je vous suggérerais de consulter les excellents cours e-diabète du professeur Slama, cours plus brefs sans doute, mais où l'adaptation à la médication est bien traitée, sur le régime alimentaire dans le diabète de type 1 et de type 2. Poursuivons avec l'adaptation diététique à la médication. La régularité des repas et collations, si besoin est importante. Généralement, la répartition des glucides dans la journée se fait de la façon suivante. 10 à 20% au petit déjeuner, 40 à 45% pour les deux repas principaux. Et s'il y a des collations, on prélèvera 10% des glucides, c'est-à-dire à peu près 15 grammes, comme le minimum de glucides dans la journée, c'est 150 grammes, des repas du midi et ou du soir. La quantité totale de glucides de la journée est généralement d'au moins 150 grammes. Un tableau d'équivalence de portions d'aliments fournissant 15 grammes de glucides peut être utile et nous verrons ceci au module 3 du présent cours. En cas d'hypoglycémie, il y aura resucrage avec un échange ou 15 grammes de glucides, ce qui sera vu également au module 3. Une boisson sucrée est préférable à un aliment solide car l'assimilation étant plus rapide, la rectification de la glycémie se fait aussi plus rapidement. Quelles sont les adaptations diététiques à faire en cas de problème clinique? On revient toujours à peu près aux mêmes recommandations. D'abord, pour contrôler la tension artérielle, contrôler son poids d'abord. Ensuite, éviter les aliments très salés pour ne pas dépasser 6 grammes de sel par jour. Bon, on n'arrivera pas à calculer, mais enfin, on évitera le sel à table, on évitera les charcuteries, les poissons salés et autres aliments très salés au goût. Et on limitera également l'alcool qui peut augmenter la tension artérielle. Pour ce qui est de contrôler le cholestérol, rappelons-nous d'abord que le cholestérol alimentaire a peu d'impact sur le cholestérol sanguin. Et c'est le LDL cholestérol qu'on veut limiter, le mauvais cholestérol. Encore une fois, contrôler son poids. Manger peu de gras au total et préférer les huiles mono- et polyinsaturées, huiles végétales, et consommer assez de fibres alimentaires. S'il y avait une atteinte rénale, alors on réduira légèrement les protéines pour se limiter à 0,8 g par kilogramme de poids par jour, alors que chez les individus sans atteinte rénale, la recommandation est d'1 g de protéines par kilogramme par jour. On ne descendra toutefois pas en dessous des 0,8 g par kilogramme de poids par jour, sauf ajustement à faire par un spécialiste s'il y avait insuffisance rénale. S'agissant des personnes âgées, fragiles ou malades, on doit s'assurer que l'apport protéique est suffisant pour limiter le risque de dénutrition. Nous avons vu aussi précédemment qu'il pouvait y avoir des insuffisances d'apport en certaines vitamines. Nous avions parlé de la vitamine D, vitamine soleil, vitamine B12. Donc, dans le cas de personnes âgées, on doit s'assurer que l'alimentation est suffisante, adéquate, notamment en protéines et en micronutriments. Quelques mots sur la gestion nutritionnelle du diabète gestationnel. À noter que l'alimentation en est la clé. Ce diabète gestationnel augmente d'ailleurs avec l'obésité chez la femme. Les objectifs de la thérapie nutritionnelle dans le diabète gestationnel sont nombre de 3, comme on voit ici. D'abord, assurer un gain de poids adéquat et une nutrition optimale pour la mère et le fœtus. Deuxièmement, réduire les risques de complications liées au diabète pour la mère et l'enfant. Et troisièmement, prévenir ou retarder l'apparition du diabète franc chez la mère. À noter également que dans le diabète gestationnel, le risque d'obésité ou de diabète ultérieur est accru pour l'enfant, d'où l'importance de bien gérer ce diabète gestationnel. D'abord, il faut surveiller la prise de poids pendant la grossesse en fonction de l'IMC initial. Si l'IMC initial est entre 18,5 et 24,9, ce qui est normal, la prise de poids totale recommandée va de 11,5 à 16 kg pour toute la grossesse. Mais on note que si la personne est maigre, c'est-à-dire que l'IMC est inférieur à 18,5, la prise de poids totale sera accrue. Et à l'inverse, si la personne présente un surpoids ou de l'obésité, il faudra limiter la prise de poids pendant la grossesse. Alors, alimentation dans le diabète gestationnel, encore une fois, une alimentation santé tout simplement, comme on l'a vu au chapitre B. Quelques additions toutefois, en raison de la grossesse, suivant le contexte. Il est possible d'avoir à ajouter un supplément d'énergie pour assurer un gain de poids ciblé à partir du 4e mois. Supplément de 200 à 400 kilocalories, ce qui représente en gros une portion du plat principal. Mais tout dépend bien sûr de l'activité de la femme et de son poids de départ. Mais sachez que l'organisme de la femme enceinte devient très économe de son énergie et des nutriments, de sorte que souvent on n'a pas besoin d'augmenter l'alimentation habituelle. Il faudra aussi s'assurer qu'il y a une source de calcium alimentaire ou sous forme de supplément. Et enfin, les suppléments de fer folate, je ne vous apprends rien, sont très importants. Il faudra privilégier les aliments à faible indice glycémique, et cette liste sera vue au module 3. Ce sont en général des aliments peu transformés. Il faudra voir à la régularité des repas et collations, répartissant les glucides entre ses prises alimentaires. Bien sûr, pas d'alcool pendant la grossesse et pas d'édulcorants de synthèse non plus. L'activité physique est préconisée, elle est recommandée, sauf bien sûr les exercices à plat sur le dos. L'activité physique pour la forme et aussi pour un meilleur contrôle du gain de poids. Enfin, parlons un peu de la prévention du diabète chez les personnes à risque. cette prévention est impérieuse partout, et surtout en Afrique, où on voit une augmentation importante de l'incidence du diabète en raison de la transition nutritionnelle, notamment de l'urbanisation et de la sédentarité qui accompagne également les modifications alimentaires. Elle est impérieuse, cette prévention, parce que le traitement lui-même coûte cher et la maladie elle-même entraîne des coûts sociaux et économiques importants, précipitant même des gens dans la pauvreté. Elle est impérieuse également puisqu'il y a évidence d'impact des interventions préventives, actions préventives ciblant bien sûr, des facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire l'alimentation, l'activité physique et dans certains cas aussi la gestion du stress. Quelles sont les personnes à risque qui devraient être ciblées? Eh bien, les femmes ayant déjà fait un diabète gestationnel, les personnes présentant des troubles de la régulation glycémique, que certains appellent prédiabète, des personnes présentant un syndrome métabolique ou agrégation de certains facteurs de risque de diabète, maladie cardiovasculaire, obésité abdominale, hypertension, glycémie élevée à jeun, dyslipidémie, ainsi que les personnes qui ont une histoire familiale de diabète. Si vous voulez, vous pouvez relire les lectures, les articles recommandés dans l'introduction sur la pertinence de programmes de contrôle du diabète en Afrique dans ces argumentaires. Toujours dans la prévention du diabète, il importe au plus haut point de se préoccuper de la gestion du poids corporel, une perte de poids s'imposant souvent pour prévenir le diabète. Il est nécessaire de combiner alimentation, santé et activité physique, comme toujours. Les différents schémas ou modèles alimentaires que nous avons déjà décrits au chapitre précédent sont tous pertinents, mais il s'agit d'adapter aux habitudes de vie, aux préférences et au contexte, tout en limitant les aliments à indice glycémique élevé et les aliments industriels ultra-transformés. Des programmes de prévention, donc ciblant les personnes à risque, et des programmes d'intervention intensive sur le mode de vie, incluant l'alimentation et l'activité physique, se sont révélés efficaces à réduire de façon substantielle l'apparition du diabète chez ces personnes à risque. Il y a eu des exemples d'efficacité de tels programmes de prévention aux États-Unis, en Finlande, mais aussi en Chine, et en Inde, comme on l'a déjà vu. En quoi consistent donc ces programmes? Eh bien, des sessions éducatives individuelles et de groupe, puis un suivi individuel. Ces sessions sont généralement sur une base hebdomadaire pendant au moins 4 mois, sinon plus. Les objectifs habituels sont une perte de poids d'au moins 7% au plus. Remarquez que cette perte de poids est moindre dans les interventions qui se sont réalisées en Inde, car il y a beaucoup moins de surpoids dans ces contextes. On vise également 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, ce qui est recommandé à toute la population par l'OMS. On voit à l'amélioration de la qualité alimentaire, à la réduction de l'apport énergétique total, à la réduction de l'apport en sucre, en gras et l'augmentation de la consommation de fibres. Ces programmes comportent généralement une équipe d'instructeurs pour l'alimentation et l'activité physique. Et on fait une collecte de données au début de l'étude, puis après les sessions intensives et par la suite de manière plus espacée. Vous vous souviendrez, comme on a vu, que même après l'intervention, les résultats étaient pérennes, ce qui est encourageant. Alors voilà, nous allons maintenant passer à une autre section qui est celle des adaptations diététiques dans différentes situations de consommation, qu'il s'agisse des collations, des repas faits, jeûne et de l'activité physique et du sport. Je vous signale que pour ce qui est de l'activité physique, il en sera aussi davantage question dans un autre chapitre, celui sur l'autogestion du diabète. Alors, s'agissant des collations, d'abord en cas de faim gale, On optera pour ces aliments contenant peu de glucides, par exemple le lait allégé ou du yaourt nature si c'est dans les habitudes, des crudités ou alors un potage de légumes ou des tomates fraîches. Encore un autre exemple, un œuf dur, du blanc de volaille ou du jambon. Pour éviter l'hypoglycémie lors du sport ou de l'activité physique, il est conseillé de prendre un fruit ou quelques fruits secs au début, ou alors de prendre un aliment ou une boisson fournissant 15 grammes de glucides, c'est-à-dire un échange, toutes les 30 ou 40 minutes, si c'est un effort soutenu. Lorsque le patient est sous insuline et que des collations glucidiques sont indiquées, un ou deux échanges, c'est-à-dire 15 à 30 grammes, on vérifiera le nombre d'échanges de glucides de différents aliments avec les tableaux qui seront décrits encore une fois au module 3. Qu'en est-il des collations selon le traitement insulinique? Eh bien, dans le cas d'insuline ordinaire, il n'y a pas de collation qui s'impose. Lorsque l'insuline intermédiaire est utilisée ou qu'on a recours à une insuline mixte 2 fois par jour, alors on prendra une collation à 10 heures et une à 22 heures. Alors que s'il s'agit d'insuline ordinaire le jour et lente le soir, on prendra une collation à 22 heures pour éviter l'hypoglycémie du matin. Et en cas d'hypoglycémie, une cuillère à soupe de miel ou 4 morceaux de sucre ou encore, de préférence, 3 quarts de tasse de jus de fruits ou alors 4 à 6 bonbons durs. Voilà. Il est possible aussi d'opérer des substitutions, qu'il s'agisse des repas ou des collations. On remplacera donc des aliments moins valables dans le cadre du diabète ou de sa prévention par des aliments qui sont plus santé, si vous voulez. Alors, par exemple, au lieu de biscuits et des gâteaux, on pourra prendre un fruit ou alors un yaourt nature. Au lieu de sucreries, c'est-à-dire ces boissons sucrées, on prendra de l'eau ou alors une boisson diète. Au lieu de prendre des frites, riche en gras et en calories, on prendra une salade verte, des feuilles vertes qui sont très très prisées en Afrique, ou alors d'autres légumes. On remplacera le poulet frit par un poulet grillé, ou alors un poulet cuit sur une longue période, c'est ce qu'on appelle l'étuvage. On pourra remplacer les croustilles qu'on appelle les chips par des arachides, mais attention, pas trop, c'est gras, ou des graines de courge. La baguette de pain blanc par du pain de grain entier ou du riz brun. Et enfin, il vaut toujours mieux remplacer les jus de fruits par les fruits eux-mêmes, qui contiennent des fibres et qui sont moins concentrés forcément en glucides. Que faire pour les repas à l'extérieur et les fêtes? Eh bien, il est toujours possible d'avoir des repas qui conviennent aux personnes vivant avec le diabète. Mais il faut beaucoup de volonté et de motivation. Il faut surtout limiter, sinon éviter les boissons sucrées et les boissons alcoolisées. On prendra de l'eau et à la rigueur une boisson diète. On préférera les aliments frais, peu transformés. On évitera les fritures et les pâtisseries et on sera attentif à restreindre les portions d'aliments glucidiques. La pâte ou le couscous ou la purée devront être en petites portions. Le jeûne du Ramadan représente en réalité un grand défi pour une bonne gestion alimentaire du diabète. On le sait, la personne diabétique n'est pas obligée de jeûner, mais la décision lui appartient en consultation avec le médecin. Les recommandations de la Fédération internationale du diabète à cet égard vise à assurer un apport adéquat pendant la période d'alimentation pour éviter les hypoglycémies pendant le jeûne. Éviter également les hyperglycémies postprandiales après le repas par une répartition correcte des prises alimentaires ou repas si vous voulez. Également, prendre en compte l'hypertension et les dyslipidémies fréquemment présentes chez les personnes vivant avec le diabète. Remarquez que le Ramadan peut être l'occasion de perdre un peu de poids, encore que, à l'évidence, peu de personnes perdent du poids pendant cette période. La répartition suggérée des apports énergétiques, donc selon la FID, est la suivante. Suivant le repas, le sahur du matin comprendra 30 à 40% de l'énergie, l'iftar 40 à 50% et les collations au besoin 10 à 20%. En pratique, ceci signifie que le repas du matin sera pris le plus tard possible avant le jour pour réduire la période de jeûne. On combinera les aliments glucidiques avec des protéines et du gras dans ce repas du matin, ce qui réduit l'index glycémique moyen des repas. On boira de l'eau et d'autres boissons non sucrées entre les deux repas pour éviter la déshydratation. On commencera l'iftar en consommant beaucoup d'eau et quelques dattes pour augmenter la glycémie. Et on évitera les pâtisseries riches en sucre et en gras qui sont très fréquentes pendant ces repas du Ramadan. Alors voilà, nous voilà à la fin de ce module. Il y a une lecture que je vous recommande, c'est un essai de prévention primaire du diabète, donc prévention chez les personnes à risque, et du syndrome métabolique à l'île de la Réunion. Bon, c'est un article qui ne date pas d'hier, mais qui est encore extrêmement d'actualité et inspirant. Voici d'autres ressources en français que vous trouverez inscrites dans la liste bibliographique jointe à ce chapitre. Je vous remercie et vous souhaite bonne étude.